podcast.
J'ai le plaisir de vous présenter Christian Pellouen, de l'université de Saint-Étienne et de l'université de Kéline en Estonie. Christian Pellouen a commencé sa formation en tant qu'hispaniste, pas sa formation mais sa carrière en tant qu'hispaniste. Depuis, il s'est soigné. Et il est devenu.
C'est moi qui l'ai suggéré.
C'est Christian qui va suggérer la formule, donc je tenais à la dire. Et depuis, il est devenu un spécialiste en didactique des langues en général. Et depuis la création de notre petite association GERES qui existe maintenant pour. L'espagnol de spécialité, mais pas seulement de spécialité, l'enseignement de l'espagnol à un public de non-spécialistes. Il est vice-président de notre association et j'en profite pour annoncer la prochaine rencontre qui aura lieu à l'université de Grenoble. C'est notre collègue Didier Pietrowski qui nous reçoit pour cette rencontre. Vous pouvez prendre contact directement avec Christian ou avec moi-même, Cristina de Lorenzo, de l'Université de Nantes. Voilà.
Merci Cristina. Bonjour à tous mes collègues et aux étudiants aussi présents, je crois qu'il y en a un certain nombre. Dans mon cas, il y a une petite erreur, non pas de casting, j'espère. Vous me direz peut-être après s'il y a une erreur de casting, mais je taille mieux pour moi en tout cas, parce que j'interviens au moment fatal de la digestion, d'une part, et d'autre part, j'interviens aussi après, il y a des ateliers, mais la conférence précédente était d'un spécialiste de la communication, Christian, excusez-moi, Marcon. Je connais un autre Christian qui s'appelle Carton, alors j'ai tendance à confondre un petit peu. Or, je vais parler de communication et je ne suis pas un spécialiste de communication. Et je vais parler de management d'entreprise et je ne suis pas non plus un spécialiste de management d'entreprise. Ce qui, j'espère, va me sauver, c'est que je suis quand même un petit peu didacticien. Et c'est bien entendu de la didactique des langues que je vais parler, mais à partir peut-être de points de vue extérieurs ou en comparant avec des disciplines ou des domaines intellectuels différents. Parce que je crois que Christian Martin le disait aussi ce matin, on a vraiment intérêt à aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Et très clairement, une manière très simple, je le dis à mes étudiants, d'avoir constamment 20 ans d'avance en didactique des langues et des cultures, c'est de lire les publications des éditions d'organisation. Parce que je ne connais pas d'ouvrage aussi bon professionnel de la formation que ceux qui écrivent et réfléchissent sur la formation en entreprise. Et on verra pourquoi d'ailleurs, avec quelques exemples concrets. Voilà, alors, cela dit, Christian Marcon m'a quand même rendu un service, c'est que vous avez remarqué mes photocopies de PowerPoint, c'est vraiment du pauvre point, dans la mesure en fait où c'est de la photocopie, et c'est pas du tout du PowerPoint. Alors, jusqu'à présent, j'étais très complexé, mais grâce à lui, je sais maintenant qu'en fait, j'ai une démarche qui est beaucoup trop ample par rapport aux petites possibilités de PowerPoint. Donc voilà, je suis un petit peu rassuré. Voilà, cela dit, donc, je remercie Rana Clay, je remercie à la CASA, je remercie Patrick Doucet de cette invitation et d'avoir l'occasion d'avoir ce plaisir de partager avec vous. Alors, j'ai changé un petit peu le titre, vous voyez, de ma communication. J'ai la réputation d'être un peu polémique, polémiste, mais la connotation négative qu'a pris polémique en français me surprend toujours. Mais il faut dire qu'en français, on est un habitué de ces dérives lexicologiques. Rendez-vous compte qu'en français, dans la bouche d'un enseignant actuellement, dire d'un élève qu'il est scolaire, c'est négatif. C'est quand même assez hallucinant. Est-ce que c'est de l'autocritique? Je ne suis pas sûr. On peut l'interpréter comme ça. Voilà. Donc, ce sera polémique. Et c'est justement le côté polémique, c'est le petit sous-titre dont je vous réservais la surprise, qui n'apparaît pas en photocopie de mon PowerPoint. Voilà. Autre surprise, c'est le troisième type de la référence bibliographique, mais ça, c'est pas voulu, tout simplement, parce que ça vient juste de paraître, comme vous voyez, le dernier numéro du Français dans le monde. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, du point de vue de la didactique pure, ça va être vraiment une reprise de ces différentes entrées. Ce que je vais rajouter, peut-être, c'est une manière systématique, encore une fois, de développer ce parallèle entre l'évolution des conceptions en management d'entreprise et l'évolution des conceptions en didactique des langues cultes. Rassurez-vous tout de suite, pour ceux qui auraient quelques chatouillements idéologiques, je ne suis pas en train de vouloir dire que les enseignants doivent devenir des managers de leurs élèves, à l'image de ce qu'on demande maintenant aux chefs d'entreprise, aux chefs d'établissement, de devenir des managers. C'est pas du tout l'orientation. Alors, je reviens quand même, excusez-moi, au titre premier de cette intervention, de l'approche communicative à la perspective actionnelle. Et voilà ce qu'on peut lire chez Trim, bien connu en didactique, puisque c'était l'un des auteurs du niveau seuil du début des années 70, donc ces textes antérieurs du Conseil de l'Europe qui ont lancé l'approche communicative. C'est de nouveau des textes du Conseil de l'Europe qui lancent la nouvelle orientation qui est l'approche actionnelle. Et on retrouve Trim comme auteur dans les deux, donc il sait apparemment de quoi il parle. Mais il parle surtout de ce qu'il savait dans les années 70. Parce que ce qu'il dit là, c'est une sorte... Il le présente comme une évidence. L'apprentissage fondé sur la tâche est tout naturellement une tendance forte et croissante dans le cadre de l'approche communicative. Il y aurait donc une sorte de continuité parfaite entre l'approche communicative du début des années 70 et la perspective actionnelle actuelle. C'est bien ce qu'il dit dans ce texte, hein, je ne vais pas tout le lire. D'accord ? Cette continuité est naturellement renforcée, me semble-t-il, chez les didacticiens anglo-saxons, par le fait que ça fait très longtemps qu'en didactique anglo-saxonne, les spécialistes disposent d'une orientation didactique où l'action est déjà très clairement fléchée comme le centre de gravité. C'est le task-based learning, c'est l'approche par les tâches anglo-saxonne. Elle est très connue depuis 20-30 ans. Donc, lorsque vous êtes dans la mouvance de l'approche par les tâches, la perspective actionnelle vous semble tout à fait quelque chose qui est dans la continuité. Voilà. Et si on se réfère effectivement à cette définition que l'on m'a dit standard de l'approche par les tâches anglo-saxonne, je ne vais pas vous la lire en anglais parce que, comme je dis parfois, on n'est pas là pour rigoler mais pour travailler, et surtout pas pour que vous rigoliez de mon accent en anglais. Donc je préfère vous lire ma traduction en espérant que je n'ai pas fait trois faux sens et quatre contresens dans ces quelques lignes. Tâche, partie du travail de classe que les apprenants, qui fait que les apprenants comprennent, manipulent, produisent et communiquent entre eux dans la langue cible en centrant leur attention sur le sens plus que sur la tâche. Eh bien, moi, je suis désolé pour David Noonan, mais ça, ce n'est pas la définition de tâche. C'est la définition d'une tâche communicative. Et c'est un bel exemple de ce qu'on pourrait donner comme le fonctionnement. Je rêve d'écrire un article sur du fonctionnement spongieux des concepts didactiques. C'est-à-dire que vous prenez le concept de tâche. C'est l'équivalent de ces éponges non encore utilisées, toutes dures, que l'on achète sous plastique dans un magasin. Vous faites couler un vin communicatif. Vous y plongez votre éponge, qu'est-ce que vous ressortez? Miracle, la tâche est une tâche communicative. Mais à l'époque de la méthodologie traditionnelle, quand le bain qui était coulé était un bain traditionnel, la même éponge tâche, vous la plongez, vous l'agitez, vous en sortez une tâche de grammaire, traduction. Voilà. Donc, il faut absolument revenir à, si l'on veut dépasser la période actuelle, si l'on veut être critique par rapport aux orientations actuelles, et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, il faut absolument disposer de didactiques, de concepts qui ne soient pas liés à l'actualité. Faire la différence entre la description d'un concept dans l'actualité et sa définition. Et la définition d'un concept pur, non historique ou ahistorique est forcément une définition extrêmement abstraite. Donc moi je propose comme définition de tâche unité de sens dans l'activité d'enseignement-apprentissage, sans entrer dans ce qui fait l'unité et sans entrer dans ce qui fait le sens, ni même dans ce qui fait la dimension de l'unité. Donc, un exercice structural en grammaire, c'est une tâche. un projet sur une année. Alors là, je l'utiliserai plus tard chez l'action, mais c'est aussi une autre forme d'activité. Donc il faut la rentrer peut-être dans la distinction entre tâche et activité, mais ça, j'avance un petit peu, comme à mon habitude, j'arrive pas à suivre ce pauvre point. Donc je commence à avancer par rapport à ce que je voulais dire un peu plus tard. Mais je reviendrai sur cette idée. Les concepts en didactique sont la mesure de l'efficacité d'un concept en didactique, c'est son abstraction, c'est son niveau d'abstraction. Alors, revenons sur cette évidence que l'on a vue dans les deux autres diapositives, de cette continuité qui serait parfaite entre la perspective actionnelle et, excusez-moi, entre l'approche communicative dans l'ordre chronologique et la perspective actionnelle. Et relisons attentivement ce chapitre 2.1 du cadre européen commun de référence. Le cadre européen commun de référence, pour l'instant, est surtout connu pour sa partie la plus importante, qui est la partie concernant les techniques d'évaluation. Je suis persuadé que le cadre européen commun de référence, chez les futurs historiens de la didactique des langues, ne passera pas du tout à l'histoire pour cette grosse partie, mais pour ces quelques lignes-là. Et si vous voulez, on les lit ensemble. Un cadre de référence pour l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation des langues vivantes, transparent, cohérent et aussi exhaustif que possible, doit se situer par rapport à une représentation très générale de l'usage et de l'apprentissage des langues. La perspective privilégiée est ici très généralement aussi de type actionnel, en ce qu'elle considère avant tout l'usager et l'apprenant, bis repetita placens, comme on dit en latin, usage, apprentissage, usager, apprenant. Je raccroche les wagons comme des acteurs sociaux, ayant à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières, je souligne à l'oral, dans des circonstances et un environnement donné à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Si les actes de parole, et c'est ainsi concessif, bien que les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s'inscrivent elles-mêmes à l'intérieur d'actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. Faisons une analyse didactique de ces quelques lignes. Excusez-moi, je reviens. C'est très bien comme ça. L'exercice de référence de l'approche communicative, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est la simulation. On considère que la meilleure manière de former les élèves à plus tard communiquer en dehors du cours ou quand ils sortent de la classe, si c'est un enseignement endolingue, la meilleure manière de former un élève à communiquer plus tard avec des natifs, c'est de faire communiquer les élèves entre eux comme s'ils étaient des natifs. D'accord ? Donc il y a ce qu'on appelle une homologie parfaite entre la tâche de référence, qui est la simulation, et ce qu'on peut appeler l'action de référence. Vous avez compris que la tâche, c'est l'agir d'apprentissage, et l'action, c'est ce que je veux appeler l'agir d'usage. Dans l'approche communicative, toute l'approche, le noyau dur conceptuel de l'approche communicative, c'est l'homologie entre la tâche, entre une tâche de référence et cette action de référence qui est formée à communiquer avec des natifs. Donc, on fait communiquer les élèves comme s'ils étaient des natifs. Comme ils ne le sont pas encore, on est obligé d'utiliser la simulation. La simulation s'explique mécaniquement par le fait que on veut continuer à appliquer l'homologie fin-moyen, alors que le moyen en classe est en décalage par rapport à l'objectif, puisqu'on n'est pas en communication sociale, on est en communication scolaire. Donc ça explique tout simplement l'importance de la communication dans l'approche communicative. Donc, dans l'approche communicative, si je reviens à cette distinction qui me paraît essentielle dans l'agir, dans l'activité en général, faire la différence entre l'activité d'apprentissage d'un côté, qu'on peut appeler scolaire, et l'activité d'usage de l'autre, qui est l'activité sociale, celle qu'on veut que les apprenants soient capables de réaliser plus tard ou en sortant du cours dans la société. D'accord ? Si on accepte cette distinction-là, qui me paraît absolument nécessaire, eh bien, on peut dire que l'exercice de référence de l'approche communicative neutralise la différence entre l'agir d'usage et l'agir d'apprentissage. L'agir d'usage de référence, c'est de faire en sorte de faire comme si l'usage d'apprentissage était un agir d'usage. Ça me paraît difficile de ne pas dire le contraire. Mais j'avance peut-être sur la discussion qu'on pourrait avoir. Or, j'ai mis l'accent deux fois à l'oral sur la citation précédente, nous trouvons usager apprenant et usage apprentissage dans ce texte. Alors, les linguistes pourront s'intéresser d'ici quelques siècles sur la valeur de ce « et », usage et apprentissage. Est-ce que c'est un « et » disjonctif ou est-ce que c'est un « et » de confusion ? Mais même s'il est de confusion, le fait que ces deux concepts soient de nouveau posés, c'est-à-dire ce qui se passe dans la classe d'un côté et ce qui se passe dans la société de l'autre, ne me paraît pas neutre. Et ça me paraît amener un décalage ou présager un décalage significatif par rapport à l'approche communicative. Deuxième chose, on dit que les tâches ne sont pas seulement langagières. Et si vous connaissez le cadre européen commun de référence, il y a un exemple que l'on cite, c'est on peut déplacer une armoire en chantonnant ou sans parler. Les tâches ne sont pas seulement langagières. Or, s'il y a eu dans l'histoire de la didactique des langues, s'il y a eu une approche qui ne s'intéressait qu'à la communication langagière, c'est bien l'approche communicative. On voit la difficulté qu'ont eu les didacticiens qui sont allés du côté du non-verbal, par exemple, à imposer, à faire valoir leurs orientations. C'est de la communication verbale. La notion d'interaction communicative, c'est de l'interaction langagière. On peut même dire que c'est de l'échange d'informations. On peut même dire que c'est essentiellement de l'échange d'informations. Donc là encore, si vous voulez, il y a un décalage qui me paraît évident. Troisième partie de l'analyse, si les actes de parole se réalisent, etc., on ne veut plus former la notion d'agir. La notion d'agir n'est plus la notion linguistique de l'une des sources théoriques, sans doute a posteriori d'ailleurs, de l'approche communicative qui est la pragmatique. L'agir de référence n'est plus l'acte de parole, c'est-à-dire l'acte que l'on fait par le langage, l'acte langagier dans l'interaction communicative. On retrouve ce noyau dur de l'approche communicative. Donc, l'agir de référence de la perspective actionnelle n'est plus l'acte de parole, ce n'est plus seulement du langage et de l'interaction langagière dans l'approche communicative, c'est l'action sociale. Ce n'est pas rien que cette modification-là. Et elle peut entraîner effectivement beaucoup de choses. Elle peut entraîner ne serait-ce que le passage de l'agir de référence qui est la communication à un agir de référence qui est un agir social, d'acteur social qui est, excusez du peu, mais la pédagogie du projet. Or, entre la simulation et la pédagogie du projet, il y a quelques différences dans la manière dont on fait classe et dont on conçoit effectivement la didactique des langues. Donc ce passage de l'acte de parole à l'action sociale est un décalage significativement important. C'est une bombe à retardement. J'essaye de faire que le retard soit le moins possible, soit le moins long possible, pour ma part. Alors, on est donc dans le cas de l'approche communicative, on est dans le cas réellement d'une innovation. On est dans un cas de rupture. Même si, comme on l'a vu avec Twigg, même si, et comme on pourrait le voir à partir de l'approche par les tâches communicatives anglo-saxonnes, même si de cette rupture, tout le monde n'en a pas conscience, je suis persuadé qu'historiquement, on est face à une rupture, un mécanisme d'innovation didactique, comme il s'en passe relativement peu dans l'histoire de la didactique des langues. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de ne pas être victime, encore une fois, des effets d'innovation. Et je sais que vous parlez ici beaucoup, par exemple, d'innovation technologique. D'accord ? Prendre de la distance, la seule manière d'être plus intelligent que les gens qui nous ont précédés, c'est d'arrêter de connoter positivement l'innovation. De la même façon qu'il faut arrêter de connoter négativement polémique et scolaire, il faut arrêter de considérer que le mot innovation est porteur en soi de progrès. Donc, j'ai trois thèses, et je vais défendre rapidement devant vous, trois thèses concernant les mécanismes d'innovation et de conception méthodologique. La première thèse est la suivante. La cause première des ruptures et passages entre configurations didactiques, c'est l'évolution des besoins sociaux. J'illustre très rapidement, je pourrais l'illustrer à partir de chaque rupture méthodologique dans l'histoire des méthodologies. Je me contente, pour aller plus vite, de la dernière rupture que je viens de vous annoncer, celle de l'approche actionnelle.
le cadre européen commun de référence, excusez-moi, les livres seuls, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'allais dire de la préface, mais oui, parce que de toute façon, toutes les préfaces étaient la même traduction du même texte. L'approche communicative, vous savez, voilà le problème, on est entre deux ruptures, donc parfois je dis l'une pour l'autre. Hein. J'espère que vous rétablirez mentalement si de temps en temps je fais des lapsus de ce type-là. La situation de référence du locuteur qui est annoncé explicitement dans les niveaux seuils, c'est celui du voyageur touristique. Vous relisez. Le voyage touristique est par définition une situation de communication, premièrement, qui est première, c'est la première fois qu'on parle avec cette personne-là. C'est ce qui va expliquer d'ailleurs l'orientation que va prendre la didactique parallèle de la culture, qui est l'interculturel. Dans l'interculturel, on est toujours, vous avez remarqué, dans la sensibilisation, dans l'approche, on ne parle pas d'apprentissage, on parle de découverte et on parle d'approche culturelle. Voilà, on est dans l'incoatif. Aussi bien dans la conception de la didactique de la langue que de la culture, dans cette unité qui est approche communicative et approche interculturelle, ce n'est pas par hasard qu'elles sont contemporaines. Ou du moins, elles se sont très fortement contaminées les unes des autres. D'accord ? Aussi bien dans l'approche linguistique, on démarre une première conversation avec quelqu'un, dans l'approche culturelle, on ne le connaissait pas non plus. C'est la première fois qu'on le rencontre réellement. Deuxième caractéristique importante, on va le quitter très vite. On va le quitter très vite. C'est ce qui explique que d'un côté, l'interaction langagière va se limiter pratiquement à l'échange d'informations. Qu'est-ce qu'on peut faire en communication avec une personne qu'on va quitter dans 5 ou 10 minutes, à part échanger des informations? Et on retrouve exactement la même notion du côté de l'interculturel. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une rencontre interculturelle qui va durer 5 ou 10 minutes, sinon se questionner, remettre en jeu des stéréotypes que l'on avait sur cette personne à l'avance? Vous voyez la cohérence, me semble-t-il, entre les grandes orientations de la didactique de la langue, l'approche communicative, et d'un autre côté, les grandes orientations de la didactique de la culture, à savoir l'approche interculturelle. Qu'est-ce qui se passe avec, comment j'interprète, moi, avec le peu de recul historique, donc je peux me tromper, comment j'interprète cette dernière rupture qui vient d'arriver avec l'approche actionnelle? Eh bien, justement, c'est que la situation de référence de la formation langagière et culturelle n'est plus le voyage touristique, c'est le travail au long cours avec l'étranger. On est dans le pays, on reste dans le pays de l'étranger, entre guillemets, et on doit travailler longuement avec lui. C'est la situation caractéristique, que l'on s'en félicite ou pas, de certains employés de grandes entreprises internationales françaises qui travaillent en France avec des Français en langue, tous en cœur, anglaise. Et avec des Espagnols, avec des Italiens, avec des Polonais, le plombier polonais sans doute de l'entreprise, je suppose. Donc, on n'est plus sur la langue de communication immédiate et ponctuelle, on est sur une langue de gestion du travail. Et on est en décalage déjà par rapport à la compétence de médiation qui apparaît aussi dans le cadre européen commun de référence, où vous avez globalement, si vous voulez, trois problématiques de référence qui cohabitent actuellement. C'est ce qui fait que la situation didactique est difficile à évaluer. On a d'un côté la préparation de cette rencontre ponctuelle avec l'étranger. On est d'un autre côté avec la préparation à la coexistence avec l'étranger ou avec des Français comme vous et moi qui ont des langues de communication et des cultures, ou du moins des parties de culture qui sont différentes. Donc vous avez compris qu'un enjeu social, c'est toujours la préparation du voyage à l'étranger. Il y a un autre enjeu social qui est apparu, c'est l'enjeu de la gestion de la multiculturalité, du multilinguisme dans la même société. Et en même temps, apparaît un troisième enjeu, qualitativement différent, presque en synchronie, qui est celui de préparer à l'action sociale commune avec des gens de langue et de culture différentes. Voilà, l'action sociale. Donc c'est ce qui fait la difficulté, c'est ce qui fait un petit peu l'ambiguïté et j'ai presque la prétention de dire la confusion des auteurs du cadre européen commun de référence, qui n'ont pas repéré, si vous voulez, qu'ils se réclament et continuent effectivement au niveau des mécanismes qu'ils proposent d'évaluation des échelles de compétences. On est encore très largement dans le communicatif. On annonce la compétence de médiation qui correspond à un enjeu social différent, qui est la gestion des sociétés multiculturelles et multilinguistiques. Et avec l'approche actionnelle, on est dans un autre enjeu social, encore une fois différent. Ce n'est pas la même chose que de vivre avec quelqu'un. Ce n'est pas la même chose que d'avoir une bonne image de quelqu'un que l'on rencontre ponctuellement. Et ce n'est pas la même chose que de cohabiter harmonieusement avec lui. Ce n'est pas forcément une bonne idée que, ayant de bonnes relations avec quelqu'un que l'on rencontre de temps en temps, de l'inviter à partager son appartement. Ce n'est pas non plus forcément une bonne idée que, ayant des bonnes relations avec quelqu'un avec qui on partage l'appartement, de l'inviter à faire un long travail, par exemple un long voyage avec lui. Moi, ça m'est arrivé, j'ai perdu des amis comme ça, en les invitant à participer à mon manuel qui est passé, donc ça a duré 6 ans. Alors, j'ai mauvais caractère, je suis polémique. Alors, peut-être que j'avais une part de responsabilité, mais je crois quand même avoir analysé ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on n'avait pas la même conception du travail. Par exemple, un exemple concret, qui vous montre la différence entre représentation et conception. Et ça, c'est quelque chose, je crois, d'important que j'ai à dire, c'est que la conception va être à la perspective actionnelle ce que la représentation est actuellement à l'approche interculturelle. Dans l'approche interculturelle, encore une fois, la situation de référence, c'est la rencontre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on va quitter très vite. Et donc, les erreurs d'interprétation de ce qu'il dit, de sa gestuelle, de ses mimiques, tous les stéréotypes que l'on peut avoir vis-à-vis de lui, peuvent venir de façon négative, interférer avec l'échange communicatif. Non ? Tout l'interculturel dans l'approche communicative est au service de l'efficacité de l'interaction langagière qui est considérée comme un échange d'informations. Il y a eu des didacticiens qui ont essayé, si vous voulez, de faire un peu de fioriture, d'en rajouter un petit peu. Le problème, c'est que si on rajoute beaucoup par rapport à ce noyau dur que je vous présente, eh ben, ça ne veut plus rien dire interculturel, puisque tout est interculturel. J'ai apprécié beaucoup ce matin quand... excusez-moi, parce que j'ai peur de faire encore le Christian Marcon, s'il est là, je m'excuse auprès de lui. Lorsqu'il a dit que quand on dit tout est communication, ben ça veut dire que la communication, ça sert à rien. Moi, j'ai vécu, à mon âge, j'ai passé la licence en 1968, un tout est, tous en cœur. Ben vous suivez ou pas, là, vous dormez? Non, mais de temps en temps, vous savez, c'est ça la pédagogie. On pose des questions, les gens ne s'attendent pas. Oh, j'étais en train de dormir. Non, je ne vous rappelle pas ma question. Non. Tout est... Ah, tout est permis, ça a été dit, et c'était aussi tout est politique. Voilà. Mais c'est vrai que si on dit tout est permis, on n'a plus aucun repère, effectivement. Mais si tout est politique, rien n'est politique. D'accord ? Donc, le tout est quelque chose est la marque d'une dérive idéologique. Voilà. Tout est, ce qu'il y a derrière, c'est très simple, on sait que c'est une connerie. C'est facile, hein, on a un marqueur de connerie linguistique. Je me rappelle de ce que disait un philosophe, et malheureusement j'ai perdu son nom, mais je suis sûr qu'en tapant « Tout est politique » sur Google, on arrivera à retrouver son nom. Je pensais à le faire, je ne l'ai jamais fait, j'aurais dû le faire pour aujourd'hui. Un philosophe quelques années après mai 68, quand j'ai lu ça, vous lisez un petit truc tout simple, et c'est une espèce de choc intellectuel, en disant « Mais bordel, c'est vrai, pourquoi je n'y ai pas pensé avant ?» Et ce philosophe disait « Tout est politique, c'est vrai. » Avec une petite réserve quand même, c'est que le tout n'existe pas. Et excusez-moi, mais ça change tout. Bon, je ne vais quand même pas donner, il ne veut pas vous faire un sketch à la dose. Donc, on va raccrocher nos wagons. Donc voilà, tout ça c'était pour dire thèse numéro 1. La thèse numéro 2, ou excusez-moi, en fait j'étais en train d'annoncer seulement, mon pauvre point ne m'a pas suivi. J'avais prévu de vous annoncer d'abord, comme la règle l'exige, les différentes thèses, et ensuite de vous les présenter une à une. Voilà. Donc je vous ai déjà longuement présenté ma thèse numéro 1, et nous allons pouvoir
passer, et ben voilà, ça c'est le résumé de ce que je viens de dire. J'espère que vous appréciez plus ce que j'ai dit à l'oral. Bon, j'ai essayé quand même. C'est ça la différence entre un pauvre point et un conférencier qui essaye d'être un peu animé. Hein. Thèse numéro 2. La conception des ruptures historiques et des passages entre configurations didactiques différentes se fonde sur les modèles idéologiques contemporains du changement social. C'est ce qui va nous expliquer les homologies entre la conception des innovations en management d'entreprise et la conception des innovations en didactique des langues. Ce n'est pas que le management d'entreprise influence directement la didactique des langues, enfin, je n'ai pas vu beaucoup de textes portés là-dessus, c'est que ces deux domaines intellectuels sont soumis exactement aux mêmes influences idéologiques pour les mêmes raisons. Et on verra comment on peut comparer effectivement un cours de langue aux adultes et une entreprise. Parce qu'un cours de langue, c'est une entreprise. C'est une entreprise dans le sens processus, processuel du terme. C'est quelque chose que l'on entreprend entre des apprenants et un enseignant. Donc c'est vraiment une entreprise dans le sens originel et fort du mot. Alors, je vous donne juste deux petits exemples qui me semblent assez probants de porosité, je vous parlais de l'éponge, hein, de porosité idéologique en didactique des langues. On ne parlait pas encore à l'époque de didactique des langues. Charles Schweitzer, j'allais dire Schweitzer, il n'aurait pas été content parce que c'était un Alsacien, donc je le prononce à la française. Alors, vous connaissez peut-être l'évolution pédagogique, le bouquin de Durkheim. En fait, ça a été une série de conférences. C'est comme le bouquin de Saussure, il ne l'a pas écrit, c'est une série de conférences qui ont été recompilées après ces conférences. Alors, Charles, toute la fin du 19e siècle, le ministère français a commencé à s'occuper de la formation des enseignants de langue, l'enseignement des langues ayant été introduit en France en 1823. Donc vous voyez un petit peu le décalage en disant, on a lancé un truc, il faudrait peut-être qu'on s'occupe de former les enseignants maintenant pour le faire. Ce serait l'idiosyncrasie à la française, que ça m'étonnerait à peine. Mais bon, laissez-moi. Charles Schweitzer, donc, il est chargé d'une série de cours à la Sorbonne de formation des enseignants de langue. C'est la première fois en France qu'on organise ce type de formation dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. Vous voyez un peu la solennité et l'importance de la chose. Et il a fait comme ça une série de 15 ou 20 conférences. Le premier mot de sa première conférence, c'est ça. Du passé, faisons table rase. Et ce n'est pas seulement une allusion à l'international qui avait été rédigée en 1871. Ce n'est pas seulement une allusion. Ça relève d'un mécanisme idéologique très fort. À savoir qu'on est sur le modèle de la révolution politique et on considère qu'une révolution, plus elle est pensée par un nombre limité d'intellectuels, premièrement. Deuxième critère, plus elle est imposée brutalement, deuxième critère. Troisième critère, plus elle est imposée radicalement, troisième critère, et meilleure elle est. Et on voit effectivement dans cette révolution méthodologique qui se met en place à la fin du 19e siècle, qui est la révolution de la méthodologie directe, eh bien on voit ce mécanisme idéologique fonctionner avec des effets pervers, du genre de professeurs qui écrivent en disant « Dans la méthodologie traditionnelle, on ne faisait comme exercice que de la traduction, version et thème, eh bien nous interdisons la traduction depuis le départ. » Voilà. Et on voit l'effet idéologique. Auparavant, on ne faisait que de la grammaire, ce qui était déjà stupide, disaient les méthodologues directs du début du XXe siècle, parce que l'anglais n'a pratiquement pas de grammaire. Vous savez, c'est quelque chose qui vient de très loin, ça. Hein, l'anglais, pour ainsi dire, n'a pas de grammaire. Donc, auparavant, on ne faisait que de la grammaire, on commençait par la grammaire, maintenant on fait la grammaire la plus petite possible, c'est plus l'enseignant qui l'a fait, c'est l'élève, et on lui demande seulement de faire quelques petits constats, hein, de genre régularité morphologique. Donc voilà, des effets de prise de position opposée. Ça c'est psychanalytique aussi, hein, je veux dire. On se pose en s'opposant. Ça peut être aussi interprété de cette manière-là. Au passage,
Je ne vous ai pas présenté Charles Schweizer, parce que c'est le méthodologue direct le plus célèbre, connu de tous. Pour la petite histoire, c'était le grand-père d'un philosophe que vous connaissiez peut-être, qui est Jean-Paul Sartre. Voilà. Son grand-père, maître paternel, était alsacien. Deuxième exemple, à l'inverse, je lis seulement, si vous me permettez, et puis je ne commente pas parce que je me démolle, comme on dit en espagnol, je suis en train d'aller un peu trop lentement. René Villard, c'est un prof à l'époque, je crois, d'anglais. Voilà ce qu'il écrit en 1928 dans les langues modernes. La méthode directe, telle qu'elle fut pratiquée de 1902 à 1923, il se réfère aux instructions correspondantes, a fait son temps. Il nous faut du nouveau en pédagogie, comme en politique, comme en littérature. Les révolutions ne font pas le bonheur des hommes, pas plus qu'elles ne font le succès des méthodes. Et qu'est-ce que la méthodologie directe dont il donne les grandes lignes idéologiques là? C'est le réformisme politique de l'époque. Et la méthodologie active, puisque c'est d'elle que je parle, est passée à l'histoire aussi sous le nom de méthodologie éclectique. C'est du genre, mais il y a du bien dans tous les partis, excusez-moi, j'allais dire dans tous les partis politiques, il y a du bien dans toutes les méthodologies. Et il suffit de prendre ce qui est bien d'un côté, ce qui est mal de l'autre, de voir ce qui est le plus adapté à la situation. Et voilà, nous, la méthode idéale, c'est le choix idéal de morceaux de méthodologie différents. Vous voyez le rapport avec l'idéologie réformiste aussi en politique. Thèse numéro 3. On commence à parler des choses sérieuses. Mon sous-titre. Les conceptions managériales et les conceptions didactiques montrent de fortes similitudes dues à des enjeux en partie identiques et à des influences parallèles. Bon, c'est très bien écrit, j'ai bien fait. Alors, voilà comment, très rapidement, mais je pense qu'il faudrait, bien entendu, creuser l'affaire. Et comme je sais qu'ici, il y a des gens qui interviennent en anglais ou dans d'autres langues, aussi pour former peut-être dans des écoles de commerce, ce que je vais peut-être leur dire du management maintenant va leur paraître peut-être naïf, voire erroné. Encore une fois, je considère que les formateurs en entreprise sont les meilleurs professionnels en formation et que constamment, pour avoir 20 ans d'avance en formation, dans la conception de la formation didactique, il suffit de les lire. Donc je suis un grand abonné et grand lecteur des éditions d'organisation. C'était ma séquence publicité, mais elle est gratuite aussi. On fait tout gratuitement, vous avez remarqué déjà dans les ateliers de ce matin. Alors, la classe de langue est une entreprise d'un genre très particulier. Elle est à durée limitée, mais ça, il faudra encore mettre un bémol, parce que ça existe maintenant, les entreprises à durée limitée. Ça existe déjà. C'est une entreprise où les employés payent pour travailler. Le capitalisme n'a pas encore arrivé à faire ça. Ça viendra peut-être, on ne sait pas. Pour l'instant, non. C'est un facteur discriminant entre l'entreprise et une classe de langue. Et puis, autre chose aussi, c'est que les employés sont en même temps les clients. On a connu les entreprises d'État où les employés avaient justement un privilège en tant que client. Ça existe tout de suite, ça existe toujours, mais c'est quand même relativement à la marge. D'accord ? Donc il me semble globalement, même si on peut pinailler, que la classe de l'enculture, c'est vrai, c'est différent d'une entreprise. Mais c'est aussi semblable à une entreprise. Et là, je parle de l'enseignement que vous connaissez, et non pas de l'enseignement scolaire. Le drame de l'enseignement scolaire, justement, c'est que ça ne fonctionne pas comme une entreprise dans ce sens-là. Je parle des différents items en deux. On doit attirer la clientèle et donc donner un modèle de modernité, une image de modernité et un modèle de modernité. Vous avez compris que les nouvelles technologies, ça, c'est imparable. Une publicité maintenant pour une école de langue, c'est des élèves complètement isolés dans des cabines avec un gros casque sur la tête. Or, c'est complètement en décalage avec la nouveauté didactique, depuis l'approche communicative. L'image pour faire vendre une école de langue, elle a 30 ans de décalage par rapport à la modernité didactique, qui est l'intercommunication entre les élèves. On fait communiquer les élèves. On ne les met pas dans des cabines séparées avec un gros casque sur la tête à travailler séparément. Une classe de langue culture doit satisfaire les attentes, demandes et besoins de la clientèle d'apprenants, si vous voulez les conserver. Je parle d'enseignement aux adultes quand ils payent, et qu'ils peuvent partir, ou se plaindre, et vous perdre votre travail. Une classe de langue culture a pour but la création d'une valeur ajoutée, c'est le surcroît de maîtrise en langue culture, c'est la valeur ajoutée qui est en fait l'élément d'évaluation et pour les apprenants et pour les employeurs. Et une classe de langue culture doit être efficace et rentable, et donc se donner un modèle de productivité. Je relis ici modernité, productivité, et j'ai en fait la clé de ce parallélisme historique constant entre l'évolution des conceptions managériales et l'évolution des conceptions didactiques. Parce qu'en fait, dans une entreprise, comme dans une classe de langue, l'enjeu, c'est d'attirer la clientèle par un modèle de modernité innovant. Regardez le rôle des étiquettes nouveau sur un produit. Nouveau, c'est connoté positivement. Ça peut être complètement merdique par rapport au produit antérieur, mais c'est nouveau. C'est fou, ça aussi, la manière dont les mots se sont connotés positivement ou négativement. C'est de l'idéologie à l'état pur, nouveau. D'accord ? C'est quand même surprenant de voir que quand on dit un professeur traditionnel ou traditionnaliste, c'est très négatif. Quand on dit un grand cuisinier traditionnel ou de la cuisine traditionnelle, c'est très positif. Ah bon ? Il faut interroger les évidences. Il faut interroger ces paquets d'évidences conceptuelles qui viennent d'accrochages très forts entre des connotations et des concepts. Il faut nettoyer les concepts des connotations. Je reviens à ce que je disais en début d'intervention. Donc, une école de langue, comme une entreprise, doit avoir un modèle de modernité et un modèle de productivité. Et vous avez compris que si vous couplez les deux, eh bien, c'est un nouveau modèle de productivité qui va servir de modèle de modernité. Voilà. On est plus efficace que les autres parce qu'on vous propose des choses différentes. New. Ne demandez pas beaucoup plus en anglais. Hein. Alors, je passe très rapidement, justement, quelques homologies de ce type. L'exercice structural de la méthodologie audio-orale, on peut l'expliquer pour des raisons linguistiques. C'est le distributionnalisme américain. Effectivement, un exercice structural, on voit très bien qu'il y a l'analyse en composant immédiat par derrière. Un exercice structural, ça s'explique aussi par la psychologie de l'apprentissage, qui est le behaviorisme. C'est le overlearning, le surapprentissage. Ça ne peut venir que du behaviorisme. La mise en œuvre concrète dans les classes de l'exercice structural, ça vient, exactement le même sens du mot venir, ça vient du magnétophone. Parce que qu'est-ce que c'est un magnétophone ? C'est une machine à imiter et répéter des modèles de langage. Or, on demande précisément dans un exercice structural, ça commence toujours par un modèle de langue que l'on demande de reprendre. Donc, il y a une conjonction entre le modèle technologique et par derrière le modèle linguistique et psychologique qui permettait justement cette conjonction. Ce n'est ni la linguistique en soi, ni la psychologie en soi, ni le magnétophone en soi qui ont produit l'exercice structural, c'est la conjonction des trois. Excusez-moi, des quatre. Parce que l'exercice structural, à l'américaine, ils ont la particularité parfois d'aller plus loin qu'il ne faudrait, vous avez remarqué. On est allé jusqu'à inventer aux États-Unis des machines à enseigner. Des machines à enseigner, ce sont des programmes d'enseignement complets, entièrement constitués de batteries d'exercices structurels. Voilà. On prend l'élève, on a prévu sur la base d'une analyse contrastive entre sa langue cible et langue source, on a prévu toutes les difficultés qu'il a pu avoir, on a repéré toutes les structures de base de la langue nouvelle, et donc sur cette base-là, on lui fait des montages d'automatismes successifs. On a pu aller jusqu'à cette dérive idéologique complètement irréaliste. On a pu aller jusque-là que parce que par derrière, il y avait le modèle de productivité de l'usine fordiste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une batterie d'exercices structuraux ? C'est une chaîne de montage d'automatismes langagiers. Vous remplacez les boulons et la clé à molette de Charlot dans les temps modernes, vous les remplacez par une console de laboratoire audio-oral de l'époque, et vous avez exactement par derrière le même modèle idéologique. La productivité, montage, une séparation très fine des différentes compétences, en l'occurrence la compétence, ça va jusqu'à chacune des structures hein, que l'on monte de manière automatique. Je vois qu'il y en a qui font des sourcils.
Mais ça, je ne dis pas pour polémiquer. Hein. Ça m'arrive parfois de ne pas faire de polémique. La méthodologie audiovisuelle française. Si vous analysez, on ne peut pas analyser didactiquement l'unité didactique audiovisuelle, au moins première génération, telle qu'elle apparaît dans les années, fin des années 50, début des années 60. Vous avez Passport to English, par exemple, et puis vous avez Voix Image de France. Voilà. Bien, vous ne pouvez pas comprendre cette unité didactique si vous ne vous référez pas au modèle de productivité efficace de l'époque qui était la révolution technologique. On voit très bien que dans l'unité didactique audiovisuelle, on s'est ingénié, les concepteurs se sont ingéniés de telle manière que l'on est le plus souvent possible à recourir à de la technologie. Pourquoi ? Tout simplement parce que en classe, comme à l'époque dans les entreprises, on considérait que plus il y a de la technologie, et plus ça progresse. Voilà. Donc c'est le modèle de progrès. C'est le modèle de progrès qui a changé. C'est plus la révolution politique. C'est plus la révolution politique. C'est la révolution technologique. L'approche communicative apparaît au début des années 70. Tiens, comme c'est bizarre. Au début des années 70, le modèle de changement social qui s'impose à l'époque, c'est la révolution de l'information et de la communication. Et dans l'approche communicative, il y a très clairement aussi un effet idéologique de ce genre, que je paraphraserai avec une formule dont vous reconnaîtrez l'auteur, mais qui n'est du XVIIIe siècle, qui serait « parler, faites parler, il en restera toujours quelque chose ». La communication en soi permet l'apprentissage de la langue. Vous pouvez le croire, hein ? Je vous signale seulement que, à la même époque que c'est apparu ça, dans les entreprises, on considérait qu'une entreprise qui ne marchait pas, c'était une entreprise où il y avait des problèmes de communication. Donc on faisait des séminaires de communication pour apprendre aux gens à communiquer. C'est la même époque, la même idéologie communicativiste, quand ça arrive chez les médecins, ça donne l'explication de l'autisme par un manque de communication dans la cellule familiale. Je ne sais pas si je le répète, mais vous voyez un petit peu ce que ça produit. Maintenant, on est dans l'idéologie biologique et on trouve des gènes de l'autisme. Et puis, continuons la chose. La centration sur l'apprenant, grande nouveauté, des années 80, eh bien, c'est l'époque aussi où dans le marketing, apparaît la notion, dans l'entreprise, en management, apparaît la notion de marketing, apparaît la notion le client roi. Vous avez peut-être des cartes client roi. Eh bien, ça date de l'époque. Hein. Mais bon, je rigole un petit peu, mais ça a supposé une révolution dans la conception de l'entreprise, puisqu'on est allé à revisiter absolument tous les processus de l'entreprise, depuis la conception du produit jusqu'au service après-vente, en essayant d'intégrer la logique de la clientèle dans chacun des moments de ces processus. D'accord ? Et c'est l'entreprise qui propose actuellement le meilleur modèle de centration sur l'apprenant, en l'occurrence de centration sur le client. Et là encore, lisez des ouvrages de marketing, vous allez trouver de très bonnes idées sur directement à mettre en œuvre en termes de centration sur l'apprenant dans la classe de langue. Revenons un petit moment, ce n'était pas prévu dans mon pauvre point, sur cette centration sur l'apprenant. J'ai écrit tout un article, étude de linguistique appliquée numéro 100, c'est facile à retenir. Tout un article de 20 pages pour critiquer la notion de centration sur l'apprenant. Et c'est un bel exemple d'utilisation non distanciée de concepts qui sont collés de connotations positives, idéologiques, etc. La centration sur l'apprenant. Curieux singulier que ce singulier, l'apprenant, est l'apostrophe. Parce que l'un des problèmes des enseignants, justement, c'est qu'ils n'ont pas devant eux un apprenant, mais des apprenants en même temps. À quoi sert l'idée de la centration sur un apprenant, l'apprenant, générique, alors qu'ils sont plusieurs et qu'ils sont différents? L'apprenant générique nie absolument toute la gestion de l'hétérogénéité. Il est con, ce concept. Et je continue. Centration sur l'apprenant. Centration, c'est un substantif verbal. C'est très utile, les substantifs verbaux, vous avez remarqué. Ça permet d'occulter le Sujet. Qui est-ce qui est le sujet de la centration sur l'apprenant? Si c'est sur l'apprenant, celui qui se centre, c'est qui? C'est l'enseignant. Mais si c'est l'enseignant qui se centre sur l'apprenant, il faut considérer aussi bien l'apprenant que l'enseignant. Et pas seulement l'apprenant. On continue le tir à la forêt. Centration sur l'apprenant. Moi, je me rappelle une belle époque où, en français langue étrangère, on n'avait pas encore fait beaucoup de recherches sur l'histoire de la didactique, et donc on disait, c'était vraiment les balises du progrès indéfini vers les lendemains qui chantent, c'était centration sur l'enseignant, ou que c'est vilain, à telle époque, méthodologie traditionnelle, méthodologie audiovisuelle, centration sur le matériel didactique, ce qu'on disait la méthode, ou que c'est vilain. Et maintenant, enfin, on a trouvé la vérité finale, centration sur l'apprenant. Centration sur l'enseignant, centration sur le matériel, centration sur l'apprenant. On a l'impression d'avoir à chaque fois changé le monde. Et il y a un mot qui ne change pas et qu'on interpelle jamais. Il y a un mot qui ne change pas. Centration. Au singulier, la centration. On postule que dans une classe de langue, il y aurait un centre de gravité à partir duquel on pourrait construire et agir dans la complexité de l'environnement d'enseignement-apprentissage. Et ça, c'est idéologique. L'importance que l'on accorde au centre, c'est tout à fait semblable à l'importance qu'on accorde à l'État dans la philosophie politique française. La centration sur l'enseignant, ça renvoie à la conception de l'État en France, quelque part. En tout cas, vous voyez qu'on peut tirer comme ça quelques petites homologies entre politique, économie. Il me reste, je vais couper de toute façon dans ce qui reste parce que vous l'avez en photocopie. Et puis, ma petite question, et ça j'ai pris bien garde que la réponse n'apparaisse pas dans vos photocopies parce que j'en vois qu'ils veulent tricher tout de suite. Non, vous ne l'avez pas dans la photocopie. À quoi renverrait dans les orientations actuellement très fortes en management d'entreprise, à quoi renverrait la perspective actionnelle? Oui, et qu'est-ce qui... C'est très bien. Qu'est-ce qui caractérise... D'accord, mais comment ça se met en place concrètement? On n'est plus sur une chaîne de montage, mais l'entreprise travaille par projet. L'entreprise travaille par projet. Non. La réorientation projet de l'entreprise, c'est vraiment la modernité, entre guillemets, parce que ça fait 20 ans. Et on la découvre maintenant. On la découvre, puisque ce qui est en train de se réactiver en didactique des langues, c'est la pédagogie du projet. Heureusement, pour une fois, on a un modèle pédagogique qui date déjà de très longtemps. Freinet, ça ne nous rajeunit pas. D'accord ? Les années 1920, on a la pédagogie du projet. Et cette pédagogie du projet, c'est justement ce qu'il nous faut en termes de traduction didactique de cette perspective actionnelle. Ça n'est pas un hasard si dans les instructions... Ah, vous devriez rapidement vous connecter, effectivement, j'étais sur batterie. Je peux dire que ma batterie à moi est divisée, que j'arrête aussi dans ma batterie. Non. Il faudrait le mettre... Alors... La majorité.
Oui, je suis un peu troublée par un glissement sémantique avec ce mot projet. Pour moi, projet dans le monde moderne, dans les entreprises modernes, c'est quelque chose d'assez subversif. C'est-à-dire, c'est changer les façons de gestion traditionnelles pour arriver à ces femmes par d'autres moyens qui sont à court terme. Mais la traditionnelle, c'est quelque chose qui marche mal. Le projet, c'est quelque chose qui va nous accélérer le processus. Et dans le mot projet pédagogique, par projet, je ne vois pas cette subversion.
Ah, ben, je crois que lorsque le projet est arrivé en pédagogie, avec Freinet, ce qui s'est passé en France, c'est bien un rejet d'une subversion. Il a été boycotté par tous les institutionnels. Il n'a été réhabilité que lorsqu'il a été complètement digéré, effectivement, par l'institution scolaire. Mais
dire que la pédagogie du projet, par essence, n'est pas une rupture par rapport à toute la conception de la relation enseignement et apprentissage, et même des objectifs d'enseignement et apprentissage, là, je crois qu'un pédagogue, un historien de la pédagogie, ne serait pas d'accord avec vous. Je crois que c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire, ça change complètement à la fois la priorité des finalités, les relations entre l'enseignant et les élèves, les relations entre les élèves eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait l'essence de la pédagogie du projet ? C'est de dire qu'on forme d'abord des citoyens, même quand on les forme en langue, c'est pour être des citoyens ou des travailleurs, si vous voulez. Et la meilleure manière de former des citoyens, c'est de les faire agir comme des citoyens en classe. C'est le conseil de classe de Freinet, par exemple. Qu'est-ce que Freinet a appliqué ? C'est une homologie. Il a appliqué l'homologie entre ce qu'il considère être comme les finalités éducatives de l'éducation, à savoir la formation d'un citoyen. Il a appliqué ça en termes d'homologie, en termes d'orientation pédagogique. La meilleure manière de former un citoyen, c'est de le considérer et de le faire agir comme un véritable citoyen dans la classe même. Et ça, je suis désolé, mais ça reste, me semble-t-il, toujours révolutionnaire, me semble-t-il. Merci de votre question, ça m'a permis un petit peu de me mettre au point.
Quel est le terme, Christian, que tu vas mettre derrière une autre donnée du monde de l'entreprise actuelle qui marche, comme on le sait bien, sur le mode du dégraissage, streamlining en anglais, sur également le mode de la délocalisation, relocation, etc. Et donc, est-ce que derrière cela, on ne peut pas y accoler l'idée finalement du travail de l'enseignement à distance ? On ne travaille plus dans la classe, mais on travaille à distance, avec économie de moyens sur peut-être les enseignants, on ne sait pas, je ne vais pas relancer cette polémique, ce n'est pas la peine, bien que tu aimes ça. Qu'est-ce que tu mets comme perspective derrière cette perspective ? Et il y en a une autre que j'ai beaucoup de mal à intégrer, c'est celle du just in time, du flux tendu, du Kanban, qui sont pourtant des ouvertures sur la rentabilité immédiate. Donc, le côté d'immédiateté, à mon avis, est à prendre en compte sérieusement. Oui. Le côté rentabilité est plus difficile à...
Je crois que Nicolas a fait allusion aussi à la question de l'immédiateté, c'est-à-dire que le temps du projet est un temps beaucoup plus court que celui des entreprises traditionnelles, qui fonctionnait parfois pendant un siècle, voire plus, sur le même produit. C'est sûr. Je crois que le fonctionnement par projet, d'abord, enseignement à distance plus localisation, je ne vous fais pas de dessin. Je crois qu'on peut quand même tirer quelques parallélismes entre les deux choses. Et puis, oui, tout à fait, oui, je te remercie. Et parallélisme aussi entre le raccourcissement du temps de motivation des élèves. On en a parlé, je crois, ce matin, que les jeunes ont beaucoup plus de temps à se motiver plus longtemps. Qu'est-ce qu'implique effectivement l'introduction du projet ? Ça peut être aussi, quelque part, la prise en compte du fait que les jeunes, maintenant, se mobilisent aussi fort que nous, mais beaucoup plus ponctuellement sur des enjeux beaucoup plus personnels, immédiats. Ça, les sociologues, ceux qui ont étudié l'évolution des associations, par exemple, en sociologie, ils ont bien vu qu'il y a autant de fibres associationnistes, si vous me permettez, en France qu'auparavant. Seulement, le mode de vécu et le mode de fonctionnement des associations a complètement changé. Les gens veulent se motiver, mais de manière ponctuelle, sur des enjeux qui sont des enjeux très personnels. Et là, je parle un petit peu en tant qu'ancien président de l'APLV, l'Association des professeurs de langue vivante, mais ce n'est pas la seule association à être confrontée à énormément de difficultés, parce que l'APLV fonctionne toujours sur le vieux modèle du militant. Et ce n'est pas du tout, le modèle du projet, ça, le militant. Hein? Ce serait le modèle du militant correspondrait à peu près à celui de l'employé de Renault, il y a quelques dizaines d'années, qui s'identifiait complètement avec les intérêts de l'entreprise. Il ne marche plus, les jeunes, comme ça. Il ne marche plus. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, ce qui est intéressant de voir dans les modifications idéologiques, c'est pas seulement de voir que c'est une nouvelle idéologie, c'est que ça permet aussi de la questionner et de ne pas en être victime comme nos prédécesseurs ont, me semble-t-il, été souvent victimes des modifications idéologiques. C'est-à-dire, je vous conseille vraiment un bouquin, l'auteur s'appelle Boutinet, B-O-U-T-I-N-E-T, Boutinet, qui a écrit un excellent ouvrage qui s'intitule « Anthropologie du projet ». Malheureusement, je n'ai plus, et maintenant ça pose un problème de ne pas avoir l'éditeur. Et cette, ce sociologue philosophe montre très bien aussi les effets pervers et même les objectifs pervers de ceux qui, au départ, peuvent introduire le projet dans les entreprises. Rendez-vous compte, par exemple, que la pédagogie du projet, c'est de dire aux élèves, tu es responsable de ton apprentissage. Tu le prends en main, c'est toi qui es responsable de ton apprentissage. Ça motive ceux qui réussissent, mais ceux qui échouent, qu'est-ce qu'ils en tirent comme conclusion? Quel est le responsable? C'est plus l'enseignant. C'est eux. C'est eux. Donc on peut comme ça multiplier, si vous voulez, les signaux d'alerte sur les limites et les dangers d'une généralisation, d'une systématisation de la pédagogie du projet dans l'enseignement scolaire. Ce pourquoi moi je lutte, c'est encore une fois, ça plaît ou ça plaît pas souvent, mais ce que j'appelle un éclectisme éclairé, c'est qu'il ne faut pas mettre nos œufs didactiques dans le même panier, tout simplement parce que ça ne correspond pas au même panier des mêmes apprenants. Certains vont adorer la pédagogie du projet, vont s'y investir, vont y trouver l'énergie qu'ils veulent, et d'autres vont au contraire culpabiliser complètement et définitivement si on ne fait que ça. Donc il faut leur donner aussi d'autres manières éventuellement de se motiver et d'autres manières de garder une bonne image d'eux-mêmes et de garder le respect d'eux-mêmes en tant qu'apprenants. Là, je parle, vous avez compris, surtout de didactique scolaire. Mais je pense que ça vaut aussi pour les adultes dans une certaine mesure. L'autonomie, c'est aussi de l'idéologie sociale pure de l'époque. C'est Rosan Vallon, à l'époque, qui publiait La galaxie de l'autonomie. Absolument. D'ailleurs, j'étais très gêné parce que j'étais tombé sur... Enfin, je me suis cassé la figure, pour être poli, de très belle façon, parce que j'étais parti sur une idée très naïve, qu'il suffisait que l'idée d'autonomie était positive en soi, et qu'il suffisait de dire aux adultes apprenants, parce que c'était en cours de formation continue à Bordeaux, on va vous mettre dans un dispositif d'autonomisation. Ouais, super. Ben, y a la majorité qui disait, on est désolé, mais nous on paye, c'est pour avoir un enseignant devant nous, pour avoir un professionnel de l'enseignement, et vous voulez, nous, qu'on fasse l'effort de devenir, alors qu'on paye, un professionnel de l'apprentissage. Montrez-nous ce que vous savez faire en tant que professionnel de l'enseignement, et puis laissez-nous décider du niveau d'autonomie ou de la manière d'utiliser l'autonomie que l'on veut. C'est parfaitement rationnel, comme discours. Hein, c'était à ça que tu faisais allusion. Ok. Donc, il me reste combien de temps? En comptant le temps de la discussion.
15 minutes tout compris.
15 minutes tout compris. Donc voilà la réponse. La réponse, on l'a eue, c'était l'entreprise orientée projet. Alors, sans transition aucune, ça c'est pour faire le bon animateur, il y a toujours un moment où il faut dire sans transition aucune. Non, il y a quand même une transition, je vous la laisse faire pour aller plus vite. On parlait ce matin de mythes. C'est vrai que ça. Il y a du mythe, mais il y a aussi ce qu'on appelle en épistémologie des paradigmes. Des paradigmes, hein, des principes de cohérence fondamentaux. Et je crois que, alors là, je travaille sans filet, certains connaissent plus de management que moi, mais je crois avoir lu un certain nombre de choses, de bouquins, des éditions d'organisation et des articles sur Internet, qui toutes focalisent et sont d'accord pour dire qu'on est en train de passer dans les entreprises du paradigme de la communication au paradigme au paradigme justement du projet, de l'action commune, ce que j'appelle la coaction. Alors, ça va reprendre beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, donc je vais aller très vite. Cette petite citation est une belle illustration de ce que disait mon collègue ce matin, à savoir que le problème maintenant des plus de communiquer, c'est de se débarrasser de la communication qui ne nous intéresse pas et qui nous pourrit le logiciel électronique. Les pourrir. D'accord ? Le prestige de la communication, ça venait en même temps que... Ben, on pensait que ça commençait, la communication internationale. Le problème maintenant, c'est qu'on n'en est plus là. Au contraire, il y en a trop de communication. Il y en a trop de communication. Et dans un article récent, je crois, dans le Français dans le Monde, je dis, hein, à une époque, on a dit que certains parlaient pour ne rien dire, et maintenant, certains disent énormément pour ne rien faire. Voilà. On est passé à un autre régime idéologique. Voilà, la messagerie n'est pas un outil de collaboration, c'est un outil de collaboration. Par exemple, si vous voulez travailler à plusieurs sur le même document, si vous êtes sur de la coaction sur un document, il ne faut surtout pas que vous receviez tous les jours 10 exemplaires de corrections différentes. Vous ne savez plus de qui est parti de quelle correction. La communication, là, la communication, la messagerie électronique, gêne très clairement la coaction, c'est-à-dire la révision collective du même texte. C'est un exemple extrêmement clair. Plus techniquement, je passe vite. Là, ce sont mes lectures sur le management d'entreprise. J'ai trouvé un certain nombre aussi d'idées inverses. La coaction détermine la communication. Voilà une critique que font ces spécialistes du management, une critique qu'ils font du discours et des pratiques managériales actuelles. Dans les discours et pratiques managériales, le partage des savoirs tend à être trop souvent pensé en termes des seuls dispositifs techniques facilitant la transmission et l'échange. C'est-à-dire, voilà le paradigme communicatif. Et le paradigme dans lequel il se situe amène à critiquer justement le paradigme antérieur. Il faut prendre en compte nécessairement les différentes logiques d'action à l'œuvre et leur dialectique. C'est-à-dire, quand quelqu'un communique, normalement, s'il ne communique pas pour communiquer et s'est supprimé pour elle, c'est qu'il veut faire quelque chose avec vous. On disait là, pour information. C'est clair que pour information, on met tout de suite au panier. Qu'est-ce que vous voulez d'une information qui ne vous sert pas à faire quelque chose ? Voilà. Donc, c'est normalement, en bonne logique, c'est ce que vous voulez faire en communiquant qui détermine à qui vous communiquez, la manière dont vous communiquez et les contenus de la communication. C'est ça la priorité. C'est ce que vous voulez que l'autre fasse avec l'action. A l'inverse, la coaction détermine la communication en aval, c'est-à-dire son utilisation. Je vous laisserai lire cette citation puisque vous l'avez aussi en photocopie. C'est un petit peu petit, mais je crois que ça vous permettra de le lire quand même. Quand on analyse l'une des évolutions les plus marquantes de ces dernières années dans les domaines de recherche en système d'information porte sur l'orientation-utilisation des systèmes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a analysé les informations en ce qui concerne le contenu. Donc, c'est une erreur en amont, parce que ce contenu ne peut être compris que par rapport à ce que veut faire celui qui vous a envoyé ce contenu, et c'est une erreur aussi en aval, puisque ce contenu n'a de sens que par rapport à ce que vous allez en faire. D'accord ? Donc, l'action englobe la communication de l'amont à l'aval. Voilà ce que l'on est en train maintenant de réfléchir en entreprise. On dépasse justement cette idéologie de la communication pour la communication. Alors, regardez aussi, moi ça m'a beaucoup intéressé, c'est récent, vous voyez, mardi 13 juin 2006, je suis désolé, c'est pas plus récent que ça, mais enfin, c'est pas très ancien. Moi, quand j'ai lu ce titre, avec ce que j'ai dans la tête, et ce que je vous ai livré cet après-midi, quand j'ai lu ce titre-là, ça m'a fait tilt tout de suite, quoi. Les ONG du militant au communicant. Parce que le militant, c'est l'action, et le communicant, merci la palisse, c'est la communication. Et donc, lisez ce texte, c'est intéressant, parce que c'est une réflexion donc sur quelque chose qui est très présent actuellement dans l'action sociale, qui sont les ONG, et où on se pose actuellement le problème de la relation entre l'action et la communication. À savoir, si vous lisez ça, il y a eu auparavant des militants. Les militants, c'était des gens qui faisaient énormément de choses, mais qui ne communiquaient pas. Quels idiots! Maintenant, on a des communicants qui communiquent d'autant plus qu'ils ne font rien. On a eu quelques scandales de ce type, avec l'ARC, par exemple. Et le président qui nous inondait d'affiches, j'étais à Paris à l'époque, on trouvait des affiches avec sa trombine en plus, pour l'ARC. On se disait, est-ce qu'il est malade du cancer? Non, pas du tout. C'est le président, en fait, de l'association de la recherche contre le cancer. Ces affiches étaient, lui, en gros plan. Je veux dire, c'était un délire mégalo, il n'y avait pas besoin d'être un spécialiste de l'analyse de l'image pour s'en rendre compte. Pour arroser le métro parisien, et en plus, il n'est pas beau, le type. C'était un gros l'air. Bon, en termes de communication, c'est pas génial, quoi. Bon, donc maintenant, il y en a qui communiquent pour ne pas faire. Et donc, la problématique qui est posée là, c'est de revenir à une pensée dialectique entre la communication et l'action. On ne peut pas séparer communication et action. Alors là, je passe d'un seul coup à l'approche communicative. Perwerk information gap. Vous avez une partie de l'information, vous mettez en groupe de deux, vous avez une partie de l'information, vous avez une partie de l'information, allez-y, vous mettez ensemble l'information. La première équipe qui a gagné, elle a gagné. Elle a gagné quoi? Elle a communiqué. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce qu'ils ont communiqué? On ne communique pas pour communiquer, à part dans les asiles de fous. On communique, il y a toujours une intention quelque part. Donc vous voyez, la simulation de l'approche communicative s'arrête tout naturellement lorsque la communication a réussi. Or dans la vie réelle, quand la communication d'abord réussit, ça se prépare en fonction d'un projet d'action. La communication réussie, ça s'interprète en fonction d'un projet d'action en aval. D'accord ? Et puis, quand la communication a réussi, bon ben ça y est, on va pouvoir travailler. Dans l'approche communicative, quand la communication a réussi, bravo, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va refaire de la communication. Bon, vous voyez, je parodie un petit peu. C'est mon côté un petit peu polémique. Mais je crois très profondément aux vertus de la polémique. Je crois très profondément aux vertus de la polémique. Après, vous faites de mes idées ce que vous en voulez. Vous êtes majeur à vacciner, comme on dit. Mais c'est ma façon à moi, si vous voulez, de pointer le doigt sur un certain nombre de choses qui, ne me semble-t-il, n'ont pas été suffisamment mises en avant aujourd'hui. Je termine juste avec deux autres citations, puis après on ouvre une petite période de discussion. On voit déjà apparaître cette problématique en français, langue maternelle. Et je vous invite à relire cette citation, je la lis rapidement. Hein. En didactique du français langue maternelle, le deuxième prochain n'est pas bien placé, il n'y a pas de prochain ici. Hein. En didactique du français langue maternelle, la définition des activités cognitives ou langagières s'est placée sous l'emprise croissante du tout communicatif, dont l'usage ressemble souvent à une fuite en avant. Non que l'on gagnerait en retour à l'ancien aveuglement sur cette dimension, mais celle-ci doit être traduite dans chaque tâche en fonction de ses propriétés intrinsèques, en particulier l'objectif d'apprentissage et les réorganisations cognitives qu'il implique. Ça veut dire tout simplement qu'on ne communique pas de la même façon si on fait une tâche d'apprentissage ou une autre tâche d'apprentissage. On ne communique pas de la même façon si on a un objectif d'apprentissage ou si un autre objectif d'apprentissage. On ne peut pas isoler de façon idéologique la communication toute seule. Elle est forcément à mettre en rapport avec d'autres enjeux. D'accord ? Quelqu'un qui vient faire mine de communiquer en classe, il s'est déjà inscrit dans un cours parce qu'il a envie de faire quelque chose avec cette langue. Deuxième citation, et je vais terminer là, dans toute la deuxième partie de ma conférence, aussi intéressante, bien entendu, malheureusement, vous la lirez dans les photocopies, ce sont les implications didactiques. D'accord ? Mais ça, c'est pour me faire inviter une autre fois par Anaclès. Voilà ce qu'écrit Jacques de Morgon, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans dans le cadre de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Il a animé pendant 15 ans des rencontres de jeunes allemands et de jeunes français. Voilà. Et c'est le résultat de sa pratique interculturelle, ô combien interculturelle, entre les jeunes allemands et les français qu'il livre là. La culture est ainsi un véritable complexe. Ceux qui s'y expriment ne la comprennent pas forcément mieux que ceux qui sont étrangers, mais ça on le sait déjà. Une compréhension supérieure ne peut être obtenue qu'à travers un laborieux travail non seulement d'ordre communicatif, mais surtout coopératif et même compétitif, reposant sur l'effectivité des interactions avec autrui en l'accompagnant de la possibilité de contestation mutuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne connaît pas l'autre en ayant des informations sur l'autre, on ne fait pas avancer l'éducation interculturelle en faisant intercommuniquer les gens, on ne connaît que les gens avec lesquels on agit. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure du voyage en commun que je ne vous conseille pas forcément de faire avec votre meilleur. Voilà, je crois qu'il nous reste quelques petites minutes éventuellement.
Il nous reste 3 minutes, 2 questions. Et donc, les participants à poser d'autres questions à Christian à d'autres moments de la journée. Mais nous avons le temps de poser 2-3 questions maximum. Que les ateliers puissent se démarrer et nous continuerons l'atelier avec 15 minutes de partie dans 2-3 questions.
Cette fausse communication ou cette communication artificielle, puisqu'on reste quand même dans un cadre scolaire où, dans lequel il n'y a pas une communication réelle qui soit instaurée. Donc, en quoi la perspective actionnelle, progresse, peut changer cette situation?
Deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est pour moi le plus important, je vais commencer par ça la conférence et la terminer en même des questions. Je vous remercie de votre question. Il ne faut surtout pas interpréter ce que je viens de dire comme, voilà, maintenant l'approche communicative c'est fini, arrive la perspective actionnelle, zim boum boum, et on repart sur la nouvelle modernité et on jette tout ce qui était fait auparavant. Si vous vous référez aux objectifs sociaux de référence, c'est-à-dire à quoi on prépare effectivement les élèves. C'est important d'être du point de vue de la déontologie d'un enseignant. Je suis responsable pour préparer mes élèves à être capable de faire quoi en société après. Tant que le contact avec la culture étrangère n'était qu'à distance, eh bien, l'activité la plus productive, je suis désolé, c'est celle qui combine l'exploitation du texte pour mobiliser des connaissances culturelles que l'on a et l'exploitation du texte pour extraire du texte de nouvelles connaissances. J'ai nommé l'explication de texte à la française. L'explication de texte à la française, elle ne paraît un exercice artificiel maintenant que pour ceux qui ne sont pas sur le même objectif social. Mais préparer des gens à tirer d'un document authentique, à tirer de nouvelles informations culturelles et à mobiliser des informations culturelles qu'ils ont par ailleurs pour le comprendre, c'est ça l'idée même de l'explication de texte. Bon, après, il y a eu dogmatisation, il y a eu tout ce que vous voulez, mais il y a adéquation parfaite entre l'objectif technique de l'explication de texte et ce à quoi on veut préparer les élèves. On pense qu'ils n'auront pas de contact ensuite avec la culture et avec des gens de cette culture-là. Donc, la découverte et le maintien de la culture à distance par documents authentiques interposés est tout à fait légitime. Il y a encore plein d'élèves dans beaucoup de pays qui n'auront jamais de contact avec des anglicistes, des francophones. Et donc, cette partie-là vaut tout à fait pour eux. D'autres, au contraire, auront l'occasion de rencontrer des étrangers, mais uniquement dans le cadre de rencontres. Bah pour eux, il y a l'approche communicative et la perspective et l'approche interculturelle. Et puis, il y a aussi d'autres qui ont comme projet, ou pour qui on a un projet, d'être véritablement capable de travailler dans la longue durée en langue étrangère avec des étrangers. Et c'est pour ces élèves-là, ou pour cet enjeu social-là, que la perspective actionnelle va se révéler la plus intéressante. Ce qui m'intéresse dans la perspective actionnelle, c'est d'une part qu'elle est plus en adéquation avec ce nouvel objectif social que l'approche communicative. Et deuxième chose, c'est que c'est une autre approche. Je ne dis pas nouvelle, parce que quand on dit nouvelle approche, le mot nouveau est tellement connoté, comme on a vu tout à l'heure, que forcément on dit nouvelle approche, ça veut dire qu'il faut laisser les autres. Non, c'est une autre approche. C'est une corde de plus à son arc professionnel, c'est un instrument de plus à son râtelier d'artisan, parce qu'un enseignant est un artisan. Le deuxième élément de réponse, vous avez compris que je l'ai déjà oublié en m'énervant sur le premier, vous me rappelez la question ?
Alors,
ce que je pense, ce qu'il y a de caractéristique dans la perspective actionnelle, c'est que, regardez ce que ça peut produire en enseignement scolaire. Un enseignant en enseignement scolaire qui utilise systématiquement la perspective actionnelle, il fait passer constamment le message subliminal suivant. Mes chers enfants, vous êtes en classe, je suis en classe. Je suis désolé, vous ne l'avez pas voulu, moi non plus. Ce n'est pas le lieu meilleur pour apprendre à communiquer, mais ne vous inquiétez pas. On va faire constamment comme si on n'était pas en classe. Pour motiver à l'apprentissage scolaire des langues, vous me passerez qu'on peut inventer mieux quand même comme message, non? Et le meilleur message qu'on peut inventer, c'est que justement, qu'est-ce que c'est naturellement une classe? C'est une entreprise où il y a un enseignant qui est payé pour enseigner une langue, et il y a des élèves qui ne sont pas payés, mais qui sont là, de toute façon, il faut qu'ils le fassent. On a un job commun, comme on dit dans les entreprises, ça fait riche, hein, et on a un travail commun en France à faire, qu'on ne peut réussir que si on co-actionne bien. Il faut que moi j'enseigne bien et que vous, vous apprenez bien. Donc, un cours de langue, c'est une entreprise, c'est un projet en soi. C'est un projet en soi. Et tout ce qu'on fait en classe, même qui est très scolaire, fait forcément partie de ce projet à plein titre. Donc la perspective actionnelle et la pédagogie du projet réhabilitent l'environnement scolaire par rapport à cette dévalorisation outrancière, injustifiée, à laquelle l'a soumise l'approche communicative pendant 20 ou 30 ans, où le prof de langue se disait, bon, j'enseigne à mes élèves en anglais ou en chinois. Bon, je sais bien qu'en fait, ils iraient passer 15 jours en Angleterre ou en Chine, ils apprendraient plus, mais bon, puisque je suis payé, je le fais, quoi. Oui. En l'occurrence, je pense que la perspective actionnelle apporte une façon de revisiter et d'enrichir, si vous voulez, la perspective sur l'enseignement, aussi bien aux adultes qu'aux enfants, aux élèves. Même si, effectivement, il y a des paramètres importants de l'environnement qui sont très différents. Et je pense que, par la pédagogie du projet, elle a été inventée avant les entreprises. Freinet, il était bien avant Toyota. Pour une fois, c'était la pédagogie qui avait de l'avance, hein, par rapport à la notion d'équipe, à la notion de... et à la notion de projet. Ah, je me vois perplexe. Il faut être perplexe.
Bien, vous avez bien joué.